Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Notre invité aujourd'hui est donc Jean-Pierre Maugendre.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Président de Renaissance catholique.
Tout à fait.
Alors vous ne venez pas cette fois-ci pour évoquer un de vos ouvrages, mais pour évoquer un des ouvrages que vous avez publié. Un ouvrage de Claude Barthes, de l'abbé Claude Barthes, consacré aux sept sacrements d'hier à aujourd'hui. Alors si j'ai intitulé cette émission Les sacrements dans l'Église catholique, c'est que effectivement il y a une spécificité disons dans l'Église catholique et on peut dire quand même chez les orthodoxes des sacrements puisque ce sont les seuls à en avoir sept.
Alors effectivement, qu'est-ce que dire de ces sacrements? Peut-être le définir.
D'abord, qu'est-ce qu'un sacrement?
Voilà, le définir. Alors dans mes souvenirs de catéchisme, oui. Le sacrement c'est quoi? C'est le signe sensible et efficace d'une grâce invisible. Voilà, signe sensible et efficace, c'est-à-dire il y a une dimension qui se concrétise dans ce que l'on appelle la forme et la matière du sacrement. La forme, ce sont les paroles qui sont prononcées. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, etc. » Voilà, ça c'est la forme. Et donc c'est effectivement quelque chose de concret. Et puis efficace en ce sens que traditionnellement, on dit que le sacrement agit ex opere operato, c'est-à-dire il agit en fonction du pouvoir que le Christ a donné à son Église et qui s'incarne d'une manière générale dans le prêtre, même s'il y a des sacrements qui ne sont pas donnés par le prêtre de manière habituelle. On peut penser en particulier au sacrement de la confirmation. Alors pourquoi est-ce qu'il existe des sacrements? Il existe des sacrements à cause d'une réalité bien tragique que nous vivons quotidiennement, malheureusement, qui est la réalité du péché originel. Donc ce péché originel, donc je le rappelle, c'est le péché commis par nos premiers parents, Adam et Ève, et dont nous assumons les conséquences. Alors nous en assumons les conséquences sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la faute originelle dont nous sommes lavés par le baptême. Et puis même si nous sommes lavés de la faute originelle par le baptême, nous subissons les conséquences du péché originel. C'est-à-dire que l'homme ne s'étant pas soumis à Dieu, de la même manière, les passions humaines ne sont plus soumis à l'intelligence de l'homme et à sa droite raison. Voilà, c'est la parole que connaissaient déjà les anciens, qui est reprise par saint Paul. C'est la parole d'Ovide. Voilà, je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. Voilà, ça c'est notre condition tragique. Et le sacrement, eh bien, on dit qu'il y a les sacrements, donc il y a la gratia sanans, c'est-à-dire en passer en particulier par le baptême, nous sommes lavés du péché originel. Et puis, il y a aussi les grâces qui nous sont données de manière à faire ce que nous devons faire. Ce sont les grâces qui doivent nous aider à mener notre vie chrétienne, donc le sacrement qui nous fait chrétien, et ensuite les divers sacrements correspondant à nos différents états de vie.
Alors, ce livre a été écrit non pas dans le but de développer justement ce que sont ces sept sacrements, mais plutôt d'étudier à la fois ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire ce qu'ils étaient au sein de la liturgie tridentine et ce qu'ils sont devenus au sein de la liturgie dite Paul VI.
Voilà, donc là, au moment du concile, la déclaration sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, donc du 4 décembre 1963, demande une réforme générale des sacrements, voilà, de manière à les faire mieux comprendre dans une intuition qui sera une intuition majeure du concile, c'est une forme d'adaptation au monde. Voilà, donc à l'issue de ce concile, les sept sacrements, conformément à ce qui avait été demandé, ont donc été réformés. Voilà. Et autant il y a eu de nombreux travaux sur la réforme de la messe, quand je dis de nombreux travaux, c'est une multitude d'écrits depuis la promulgation de la réforme de la messe en 1969, autant il n'y avait pas, à ma connaissance, eu de travaux un petit peu exhaustifs sur ce qui s'était passé autour des six autres sacrements. Puisque je rappelle qu'il y a donc sept sacrements, et que ces sept sacrements, un point qu'il faut rappeler à nos auditeurs et nos téléspectateurs, voilà, il est de foi de croire que ces sept sacrements ont été institués par le Christ. Que ces sept sacrements ont été institués par le Christ avec l'objectif, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, eh ben, de nous permettre de mener une vie chrétienne, et menant une vie chrétienne, nous permettre d'accéder au salut. Voilà, donc l'objectif de ce livre, c'est ça, c'est de voir la manière dont les autres sacrements ont été réformés. Et puis cela répond aussi à un besoin, je dirais, un petit peu particulier, qui est lié au motu proprio traditionis custodes, par lequel le pape François visait la suppression à terme de la célébration de la messe romaine traditionnelle, mais également imposer des mesures drastiques sur l'utilisation des formules traditionnel concernant les six autres sacrements. Et donc l'actualité un petit peu de ce travail de l'abbé Barthes, c'est cette réforme liturgique qui d'une certaine manière a été imposée par l'Église, quelle en est la nature, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ce livre, c'est une étude de la forme, c'est-à-dire des prières, et puis également de la matière, puisque la matière des sacrements, en fait, n'a pas été tellement changée. La seule modification, c'est l'autorisation qui est donnée d'utiliser de l'huile pour le Saint-Crème,
L'huile de tournesol.
Voilà, qui ne soit pas de l'huile d'olive, alors que traditionnellement, c'était toujours de l'huile d'olive. Voilà. Alors, en voyant...
Et il n'empêche que dans les fêtes, tout le monde utilise de l'huile
d'olive. Voilà, alors en voyant en plus que cette distinction ne vaut pas pour la France, puisque la Conférence des évêques de France a décidé que, de toute façon, ce serait de l'huile d'olive pour tout le monde. Donc, c'est un débat un petit peu théorique.
Alors, cette petite étude, cette courte étude, mais vigoureuse étude, est préfacée par Mgr Schneider. Et Mgr Schneider cite un texte absolument extraordinaire de Don Boniface Luyck.
Voilà, alors Don Boniface Luyck,
1915-2004.
Voilà, pour être bien franc, dont j'ignorais
Totalement aussi.
Et donc, qui a
c'est
été
une grande découverte de cette préface,
qui a été un des artisans de la réforme liturgique, hein, puisqu'il y a été très investi. Et en fait, pour synthétiser un petit peu les propos de Don Boniface Luyck, ce qu'il observe, c'est qu'en fait, le sacrement change un petit peu de nature, en ce sens que jusqu'ici, il était un acte sacré, ce que j'ai dit en introduction, le signe sensible et efficace d'une grâce invisible, avec aussi, rappelons-le, contre l'erreur donatiste, le fait que l'efficacité de ce sacrement n'a rien à voir avec les qualités personnelles de la personne qui le confère. Voilà, c'est-à-dire que un prêtre peut avoir une vie tout à fait dissolue, raconter des bêtises, ne pas croire à ceci ou à cela. Ça n'a aucun impact sur le sacrement qu'il donne, puisqu'en fait, lui, il n'est qu'un instrument. Voilà, c'est tout l'Église, c'est le Christ qui transmet cette grâce. Et en fait, Don Boniface Luyck dit, qui a été très investi, en fait, on est passé d'un primat de la sacralité de l'acte à, en fait, ce qui apparaît très souvent comme une fête sociale, et donc un aspect, l'expression est employée plusieurs fois dans le document, donc d'un aspect très vertical à un aspect plus horizontal.
On peut le citer. Alors, le cœur de cette crise consiste à déplacer le centre de l'être de Dieu vers l'homme, de la verticale vers l'horizontale. Or, la dimension essentielle de toute liturgie est une orientation verticale vers Dieu dans la louange et le sacrement. Elle rejoint ainsi la structure ontologique de l'âme humaine et de la société. Cette orientation vers Dieu est, d'un point de vue anthropologique, la motivation la plus forte et la plus indestructible des relations. Elle exige le rituel pour construire la personnalité de la société. L'essence même de notre crise post-chrétienne réside donc dans la destruction de ce fondement liturgique de la vie humaine.
Alors c'est particulièrement manifeste, je pense à deux sacrements, on aura peut-être l'occasion de les traiter dans le détail. C'est bien sûr manifeste dans le sacrement que constitue l'Eucharistie, que constitue la messe.
Alors c'est le plus grand des sacrements.
C'est le sommet. C'est le sommet de la vie chrétienne. Et en fait, chacun peut observer qu'on est passé d'une dimension très verticale, avec un rôle particulier du prêtre, avec des ornements, avec le fait que le prêtre ne soit pas de manière habituelle tourné vers l'assemblée, avec l'usage de la langue latine, avec des moments de silence. Donc on est passé d'une liturgie très verticale à une liturgie plus participative et qui effectivement...
Alors qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie d'abord ?
Alors, le sacrement de l'Eucharistie, la messe, donc c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Voilà. Quand nous sommes à la messe, nous sommes au pied du calvaire où s'opère un sacrifice dont les finalités sont au nombre de 4. C'est un sacrifice latrétique, c'est-à-dire c'est un culte qui est rendu à Dieu tel qu'il est Dieu. C'est un sacrifice eucharistique, efcharisto en grec, ça veut dire remerciement, donc on remercie Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a faites. C'est un sacrifice impétratoire, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de les grâces dont nous avons besoin pour mener votre vie chrétienne. Et puis, c'est là où le bas blesse le plus, en particulier avec les communautés protestantes. C'est un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire, c'est en particulier ce qui est très marqué dans la liturgie traditionnelle. Voilà, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais nous demandons à Dieu de nous pardonner parce que nous avons confiance en sa miséricorde et non pas parce que c'est un dû. Voilà, je crois qu'on a là une perspective dont chacun conviendra qu'elle est sensiblement différente de ce que l'on vit de manière classique dans les paroisses dites ordinaires.
Alors avant d'entrer justement dans les explications que donne l'abbé Barthes de cette perte, disons, de substance, on pourrait dire, de ce qui constitue le sacrement de l'Eucharistie, le Monseigneur Schneider explique qu'il a le grand mérite de signaler les déficiences et les caractéristiques clairement antitraditionnelles du nouveau rituel par un exposé approfondi et équitable. Après une lecture impartiale de sa présente étude, on doit honnêtement arriver à la conclusion qu'il faut revenir à l'esprit et au rite sacramentel tel que l'Église l'a constamment conservé, immuable selon la norme et l'esprit des pères de l'Église et de presque tous les pontifes romains. Donc, voilà. Ça, c'est pour donner le cadre.
Alors, il cite abondamment, en particulier, donc Mgr Schneider, Don Guéranger. Donc, Don Guéranger sur l'esprit de la liturgie. Et en particulier, Don Guéranger insiste beaucoup sur le fait que la liturgie, c'est un développement homogène et on est dans une continuité de ce que les pères nous ont transmis. Et c'est, il a également un texte, ce qu'il appelle l'hérésie antiliturgique. Et Don Guéranger, par principe, refuse ce qui est nouveau. C'est-à-dire, il dit la liturgie, c'est ce qui a été transmis par la tradition de l'Église, c'est ce qui nous fait remonter aux apôtres, et par nature, il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau. Or, ce que nous savons, ce que nous observons, voilà, c'est que la réforme liturgique a introduit un nombre important de nouveautés.
Sous prétexte de revenir aux origines.
Alors, sous prétexte de revenir aux origines, je rappelle que c'est une déviation antiliturgique qui avait été dénoncée en particulier par le pape Pie XII dans un document qui reste un document essentiel pour qui s'intéresse aux questions de liturgie. C'est une encyclique de Pie XII qui s'appelle Mediator Dei. Mediator Dei et Hominum, oui. La liturgie qui est donc l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Pie XII, dans ce texte, dénonçait ce qu'il appelait l'archéologisme. Et l'archéologisme, c'est le fait de revenir à ce qui se faisait aux origines sans intégrer, sans prendre en compte les raisons qui ont fait que l'on a opéré des changements. En particulier, et ça a été traité dans un autre ouvrage écrit par Mgr Schneider, c'est la question de la communion dans la main et de la communion sous une seule espèce, sous les espèces du pain. Et en particulier,
on pourrait aussi parler de l'offertoire.
Voilà. Ce qui est sûr, c'est effectivement que ces pratiques ont existé dans les premiers temps de l'Église. Et l'Église a demandé à ce qu'il n'y ait plus la communion sous les deux espèces pour deux raisons. D'abord pour une raison pratique, parce que voilà, le précieux sang, le vin dans le calice, et on augmente quand même de manière très sensible le risque qu'il y ait des mauvaises manipulations, qu'il en tombe, etc.
Vol des saintes espèces
voilà,
aussi.
Voilà, et donc l'Église a demandé à ce qu'il n'y ait plus que le prêtre à communier sous les deux espèces. Les laïcs, c'est possible si, par exemple, quelqu'un qui est allergique au gluten, voilà, donc très bien. Et c'est la même chose pour la communion dans la main. La communion dans la main a existé au début de l'Église, mais dans son ouvrage sur la communion dans la main, Mgr Schneider explique bien que la communion dans l'Église, telle qu'elle était vécue au 1er siècle de l'Église, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les paroisses. Et en particulier, il fait un long développement autour du verbe lambano en grec, qui veut dire « prendre ». Il dit prendre l'hostie. Il dit prendre l'hostie. Et ça, c'est pas possible ça. L'hostie, c'est Dieu. On ne prend pas Dieu, quoi. C'est là, on est en plein délire éthylique, quoi. Et donc, il explique que quand la communion dans la main existait au 1er siècle de l'Église, en fait, les gens, ils avaient un linge sur la main. On mettait l'hostie sur le linge. Et en fait, ils portaient à leur bouche cette hostie qu'il n'était pas question de prendre. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un exemple, mais il en existe une multitude d'autres. On peut aussi penser...
La messe, il y a un chapitre dans ce ouvrage qui s'appelle « Une messe toute nouvelle ». Parce que là, on parle d'archéologie, d'archaïsme, mais il y a aussi... des créations pures et simples.
Alors,
le fait de passer du canon romain à 14 prières eucharistiques officielles,
c'est un élément, je crois, sur lequel on n'a peut-être pas insisté. C'est autour de cette question de la sacralité. C'est-à-dire que dans le rite romain traditionnel, il n'y a qu'une formule.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la logique où le prêtre est un instrument entre les mains de l'Église. Il n'a aucune créativité. Son seul élément de créativité, c'est au moment du sermon. Bon, et d'ailleurs, normalement, voilà, au moment du sermon, le prêtre, quand il va prêcher, il retire la chasuble, et il va donc prêcher uniquement avec son étole et sans sa chasuble, parce que là, c'est monsieur l'abbé du truc qui va nous enseigner, alors avec des qualités, avec une érudition
avec
variable,
moins,
avec une maîtrise de la langue variable, avec un zèle variable, etc. Mais là, c'est monsieur l'abbé. Alors que, quand il est revêtu de la chasuble, il n'a aucune initiative, il est un instrument docile entre les mains de l'Église. Et il faut intégrer le fait que ce qui est sacré ne bouge pas. Voilà. Et que, par nature, produire plusieurs canons, plusieurs prières eucharistiques. On va le voir également pour
plusieurs
les sacrements.
Plusieurs formules de, voilà. de confirmation.
Voilà, plusieurs formules de confirmation, plusieurs formules pour le baptême, etc. Par nature, un, cela contribue à la désacralisation du rite qui est en train de se dérouler. Et puis deux, on ne l'a pas suffisamment souligné, d'une certaine manière, le fidèle, le laïc, eh bien, il devient un petit peu prisonnier, otage des lubies du prêtre.
Oui.
Voilà, il a choisi telle formule d'accueil à la place de tel autre.
Ce qui est plus grave, c'est que parfois le prêtre lui-même est l'otage des lubies du conseil paroissial.
Alors oui, il y a aussi ouais. cette dimension qui n'était pas prévue à l'origine.
D'une prise de pouvoir démocratique.
Mais je crois que voilà, la sacralité du rite, le fait que l'Église fixe un rite que le prêtre ne peut pas changer, oui. c'est aussi une protection pour les laïcs.
Oui, bien sûr,
voilà,
bien
je
sûr.
Vais à la messe, je vais assister à tel sacrement, eh bien, je suis préservé des lubies, des maniaqueries, de la créativité, de l'inventivité, de l'affectivité du prêtre qui célèbre. Et ça, eh ben, l'expérience montre que ça peut être à la fois très précieux, très rassurant.
Voilà. Et alors, il faut remettre tout ça dans le cadre de ce dont parle M. Zabi Barthes dans son introduction, en nous expliquant que le refus de se soumettre à ces nouveaux rituels, et notamment à la messe, à la nouvelle messe, Paul VI, se fonde aussi sur le fait que la manière de célébrer la Sainte Eucharistie ne peut se justifier que par le fait que l'obligation qui est faite n'est pas une loi.
Alors, effectivement, les débats autour de l'acceptation ou non de cette réforme, je crois oui. qu'il y a deux manières d'envisager les choses. Il y a une première manière qui est une manière, je dirais, logique, rationnelle, intellectuelle, qui est de dire, voilà, ben, on prend les textes, on regarde, et puis, ben oui, ben ça, c'est différent. Là, c'est pas la même chose. Et là, on est sur une approche rationnelle qui permet l'argumentation. Voilà. Et dans lequel il est difficile de ne pas prendre acte de ce que le caractère sacré de tous ces sacrements a été sensiblement estompé dans la réforme liturgique. Et puis, il y a une autre manière de prendre les choses, d'aborder les choses, puisqu'en particulier, nous ne nous y attendions pas, nous en parlions en venant, etc. Voilà, ce livre a quand même fait l'objet de oui. très nombreuses recensions. Il y a eu des débats, des articles. Alors, j'ai noté.
Extrêmement critique.
Voilà, j'ai noté dans La Nef, dans Monde et Vie, dans Politique Magazine, dans Una Voce, dans l'Action Familiale et Scolaire, sur le Saint-Lombège, sur le site de Paix Liturgique, dans la lettre à nos frères prêtres, dans L'Homme Nouveau, dans Cedes Sapientiae, la revue des Dominicains qui sont à Chémerey-le-Roi. Donc il y a eu un débat
ah oui.
Autour de la légitimité de publier ce livre, et aussi, j'en arrive au cœur de mon propos, sur la légitimité de poser un regard qui peut être un regard critique sur la réforme liturgique.
C'est ça.
L'argument de fond qui est opposé est, je pense, parfaitement synthétisé par M. l'abbé Sprit, que je connais un peu, donc qui est le curé de Saint-Georges à Lyon, qui célèbre la messe romaine traditionnelle, et dans lequel, dans l'article un petit peu qui a démarré les recensions, les réflexions autour de ce livre, il écrit, je cite, « Le livre juge et condamne des prières approuvées par la Sainte Église hiérarchique, notre mère. » Voilà. Des prières approuvées par la Sainte Église hiérarchique, notre mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette réforme liturgique ayant été validée par l'autorité suprême, puisque tout ça a été validé par le pape, tout débat, toute remarque devient illégitime. Alors, si cela part d'un bon sentiment, d'une bonne intention, qui est de faire confiance à l'Église, je crains que cela ne se heurte à la réalité des choses. Et je me permets, pour préciser mon propos, de donner trois exemples, qui sont trois faits. Premier fait, Donc, approuvé par la Sainte Église hiérarchique Notre Mère. La Sainte Église hiérarchique Notre Mère, dans la première version de la réforme liturgique du Nouvel Ordo Missae, qui est promulguée en avril 1969, elle enseigne dans sa présentation générale, ce qu'on a appelé l'Institutio Generalis, son article 7. Le fameux article 7 donne comme définition de la messe ou synaxe sacré. Et le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre, là s'appliquent de manière éminente les paroles du Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Ça, c'est un fait. Cet article 7, c'est un document promulgué officiellement par la Sainte Église hiérarchique Notre Mère. Voilà. Alors, ça va susciter un tollé général, et un an plus tard, en fait, cet article 7 va être modifié. Bien. Cet article 7 va être modifié dans un sens un petit peu plus catholique, oui, moins ambigu. N'empêche que pendant un an, la Sainte Église hiérarchique Notre Mère nous a proposé comme définition de la messe une définition dont nous dirons par charité qu'elle était parfaitement ambiguë. Oui. Premier exemple. Deuxième exemple. Et là, tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui sont familiers de la liturgie ordinaire le savent comme moi, c'est la traduction du Notre Père en français. Voilà, c'est-à-dire la Sainte Église hiérarchique Notre Mère, pendant des décennies, nous a proposé comme traduction du credo, consubstantialem patri, voilà, le Fils qui est consubstantiel au Père, elle nous a proposé comme formule de même nature.
Oui.
Bon. Or, ça n'est pas le cas. De même nature, c'est un affaiblissement du caractère consubstantiel. Et d'ailleurs, c'est tellement peu le cas que cette traduction a été changée, oui, il y a quelque temps.
De même que le Notre Père.
Voilà.
Alors, ne nous soumet
exactement
pas à la tentation.
Alors, c'est mon troisième exemple. Donc, deuxième exemple, voilà, ben, la Sainte Église hiérarchique Notre Mère, pendant des décennies, elle nous a présenter une traduction du credo qui était faible, et on a la même chose pour la traduction du Notre Père. La traduction traditionnelle, c'était « et ne nous laisse pas succomber à la tentation », qui est devenu « et ne nous soumet pas à la tentation », ça a fait des remarques, bon, on a quand même fini par s'apercevoir que c'était des bêtises, et puis maintenant, on ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà. Tout ça, le premier, c'est un acte officiel du souverain pontife.
Oui.
Le deuxième, les deux autres exemples, ce sont des actes tout à fait officiels de la conférence des évêques de France, dans lequel la réalité nous oblige à dire que la Sainte Église, Notre Mère, elle nous a mis à disposition des productions un petit peu faisandées. Donc l'argument d'autorité...
Troisième correction, priez mes frères, l'orate et fratresse,
oui,
qui a été rétabli.
Voilà. Et donc, voilà, la Sainte Église Notre Mère, alors l'Église est sainte, son personnel ne l'est pas, déjà parce que c'est nous qui faisons partie du personnel, et je crois qu'il y a là une dogmatisation, une infaillibilisation,
oui, c'est ça,
d'actes qui ne le sont pas. Voilà, l'infaillibilité du pape, telle qu'elle est définie par Pastor Aeternus au Concile Vatican I, c'est très précis, c'est très cadré. Voilà. Le reste, l'expérience montre que l'Église peut se tromper. Mais il est sûr que si on infaillibilise toutes ces décisions, le débat se clôt.
Mais ces sacrements, deux points, écrit l'abbé Barthes, un message doctrinal faible, délivré par un rite flou.
Alors, effectivement...
Quand c'est flou, il y a un loup.
Quand c'est flou, voilà, comme disait la grand-mère de Martine Aubry.
Oui.
Alors, je crois que là aussi, il faut faire une distinction. Il y a deux choses. Il y a la grâce qui est transmise par le sacrement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les paroles du baptême suffisent pour qu'il y ait un baptême.
Le livre ne consiste pas à remettre en cause la transmission des sacrements au sein de l'Église catholique actuelle.
Voilà.
Il pose un débat.
Alors, il pose un débat. Je reviens sur les questions de validité d'un sacrement. Donc, on a parlé de la matière, on a parlé de la forme. Je rappelle que les deux conditions de validité supplémentaires d'un sacrement, c'est un ministre validement ordonné. Voilà, c'est la messe, eh bien, il faut que le prêtre soit effectivement prêtre. Et là où la situation se complexifie, il faut que le ministre ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Voilà. Et donc, il y a un prêtre qui se trompe ou qui volontairement a une autre intention que celle de faire ce que veut faire l'Église, ben, ça pose des questions sur la validité du sacrement. Ça n'est pas l'objet de ce livre.
Non.
L'objet de ce livre, c'est de réfléchir essentiellement aux prières qui vont autour. Également, il faut dire. La validité de la messe, alors on le voit là, un certain nombre d'évêques, un certain nombre de prêtres, dans leur persécution, ont été amenés, je pense à la biographie du cardinal Van Tuan, voilà, dont il dit qu'il est amené à célébrer la messe. Vraiment, voilà, il dit les paroles de la consécration, il a du pain, il a du vin, il y a la présence réelle, etc. Bon, mais il est, alors on voit ça aussi dans le livre qu'a écrit Yves Chiron sur célébrer la messe à Auschwitz, là, il raconte des conditions très extrêmement difficiles de célébration de la messe. La messe, elle est valide, mais si l'Église a souhaité, au fil du temps, au fil de son histoire, entourer cet acte sacramentel essentiel d'un certain nombre de prières, qui sont des prières qui correspondent aux quatre finalités que j'ai évoquées tout à l'heure, ça n'est pas pour rien.
Non.
C'est-à-dire,
non.
On n'a pas à s'en, à s'en dispenser sans grave raison. On voit en particulier ça dans le cadre de la célébration, parce que c'est certainement le sacrement le plus problématique dans ses conséquences. C'est la célébration du sacrement de baptême. Voilà. Le sacrement de baptême, il est valide quand je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, voilà. Et on verse de l'eau sur le front de la personne que l'on baptise. Je rappelle également pour nos auditeurs et téléspectateurs, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'hérésie donatiste, c'est que ce sacrement peut être donné, voilà, en cas d'urgence, il peut être donné par un laïc, et il peut même être donné par un laïc, entre guillemets, qui n'y croit pas. C'est-à-dire, il a l'intention de faire, il ne la partage pas,
et il est baptisé lui-même.
Voilà. Et donc,
à condition d'être baptisé lui-même.
Le sacrement. Eh bien, je n'ai pas de réponse, mais je n'en suis pas persuadé.
Ah oui ?
Et j'aurais même tendance, alors là, on va voir peut-être nos auditeurs, oui, monsieur l'abbé X ou Y va pouvoir téléphoner, nous donner la réponse, je crois que non. Mais on va attendre confirmation.
Alors, avant d'aborder en profondeur cette question.
Je crois que non, parce que ce ne serait pas conforme avec ce que j'ai dit tout à l'heure de la personne qui n'est qu'un simple instrument.
Effectivement.
Et donc, autour du baptême.
Alors, avant de parler du baptême, rappelons que vous êtes sur l'antenne de Radio Courtoisie et que Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Et donc, la moindre petite obole aide au développement et au maintien à la vie de la radio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs et auditrices, on revient donc à cette question du baptême qui nous oppose, Jean-Pierre et moi, sur le fait que nous ne sommes finalement que de simples intermédiaires, de 5 médias. Je dirais presque, du sacrement de baptême, ou si il faut être baptisé soi-même pour transmettre le baptême. Voilà.
Alors on espère que certains vont se précipiter sur leur catéchisme, sur leur temps, sur ce qu'ils veulent.
Le problème n'était pas là, le problème, et je suppose que d'ailleurs Paul VI lui-même s'en était rendu compte, le problème c'est la suppression
le problème c'est la suppression des exorcismes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment là, alors c'est très pompeux, on dit un changement de paradigme, c'est-à-dire que dans le sacrement traditionnel, voilà, l'effet principal du baptême, c'est effectivement de laver du péché originel. et puis de chasser le démon. Bon, pour cela, il y a de nombreux exorcismes, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Voilà, sort de cet enfant, esprit impur, etc. Bon, et en particulier, toute la première partie du baptême, qui se déroule en dehors de l'église, voilà, le prêtre est en violet, parce que l'enfant n'a pas encore été lavé du péché originel, et c'est ensuite, une fois qu'on sera rentré, que le baptême aura effectivement lieu. Là, à ce moment-là, le prêtre revêt une étole blanche. Et accueille le nouveau baptisé, effectivement, dans la communauté chrétienne. Parce que c'est aussi cette réalité. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Bon. Cette question des exorcismes, alors nous livrons le témoignage que je tiens de sa bouche même. Donc, oui. Monsieur l'abbé Cottard, à l'époque, on est dans les années 70, il est séminariste au séminaire français de Rome, et donc il suit les études au séminaire français de Rome, et puis à l'occasion de la promulgation des nouveaux sacrements, il y a une grande réunion à Saint-Pierre de tous les séminaristes romains. Oui. Alors ça fait du monde. Et là, le pape Paul VI dit voilà, donc on a un nouveau rite des sacrements, etc. Et puis benoîtement dit bon voilà, ben on a supprimé les exorcismes. Je ne sais pas si c'était une bonne idée.
Peut-être avons-nous eu tort de supprimer les exorcismes.
Bon. Et là, l'abbé Cottard me portait ce témoignage. Je me disais, donc, d'abord, stupéfaction des séminaristes qui disent, voilà, on voit le pape, il vient nous présenter un nouveau rituel des sacrements, et il se demande s'il a bien fait. Alors, quelque part, on doute un peu du chef. Alors, stupéfaction des séminaristes et consternation des cardinaux, des évêques et tout, qui sont avec le pape, en disant, c'est quoi cette histoire-là? Voilà, on a changé, et le pape lui-même se demande si on a bien fait. Voilà, donc ça pose quand même des soucis. Et alors, on livre aussi un fait concret dans cette petite brochure, ce petit livre, plus que cette petite brochure, l'abbé Barthes en fait mention, et puis je me suis un peu intéressé à ces sujets, en particulier des livres du Père Amorth. Voilà, le Père Amorth, c'est, je dirais, l'autorité, reconnue en termes d'exorcisme. Et le Père Amorth et d'autres après lui ont toujours dit, dans certaines situations d'exorcisme qu'ils avaient à faire, voilà, cette personne est infestée, possédée, on ne va pas rentrer dans toutes les distinctions maintenant, depuis avant sa naissance. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et le Père Amorth et puis ses exorcistes disant, voilà, ben, s'il avait été baptisé avec le rite traditionnel, le diable aurait été chassé. Il n'a pas été baptisé, ben il risque pas d'être chassé, et il a été baptisé avec le nouveau rite. Ce rite n'est pas assez fort. Je rappelle également, pour la culture générale de nos auditeurs, c'est le cas unique.
Oui, mais est-ce qu'on peut recevoir qu'une moitié de sacrement?
Ah, mais c'est pas du tout ça le sujet. Le sacrement, cet enfant, il est baptisé. Mais une partie de ce qui tourne autour du sacrement, qui est qui l'exorcisme, effacé, le fait de chasser le diable, là n'a pas été réalisé, mais c'est autre chose. Alors, d'accord, je dis aussi, c'est un cas très particulier sur cette question des exorcismes. C'est que, donc, la réforme du rite des exorcismes, c'est la dernière réforme qui a eu lieu.
Oui.
Ça a eu lieu beaucoup plus tard, dans les années 80, etc.
Effectivement.
Et donc, on avait rassemblé une commission... D'abord, on a rassemblé des évêques pour faire une proposition. On a rassemblé des évêques pour faire des propositions de modification des exorcismes. Très bien. Ces évêques, ils ont fait un projet. Ces évêques ont été transmis à des exorcistes, c'est-à-dire des gens dont c'était le métier. Bon. Les exorcistes en question ont dit « Votre histoire, vous êtes bien gentil, mais c'est n'importe quoi. C'est le seul truc qu'on peut vous dire, c'est que ça n'a pas marché. » Bien. La démocratie dans l'Église étant ce qu'elle est, quelques temps après, la commission a dit « Très bien, on a écouté les exorcistes, mais on va faire ce qu'on avait dit.
Oui. »
Bien. Alors, la seule modification, la seule chose qui a été donnée, je crois que c'est le cardinal Hoyos qui a fait ça, c'est de dire, voilà, bon, on conçoit que c'est difficile, donc ceux qui veulent continuer à utiliser les anciens exorcismes le peuvent. Et l'expérience montre que la grande majorité des exorcistes continuent d'utiliser l'ancien rituel parce qu'entre guillemets, ils se montrent plus efficaces.
Effectivement. Alors, il nous reste relativement peu de temps, cher Jean-Pierre, et comme il s'agit de sept sacrements, il est évident que nous ne pourrons pas traiter de ces sept sacrements. Est-ce que vous souhaitez vous attarder sur l'extrême-onction ou sur la confirmation? Il me semble que l'extrême-onction...
Alors, je fais ce qui vous convient.
Une importance plus grande, puisqu'elle introduit à l'éternité, quand même.
Alors, l'extrême-onction, ce que note M. l'abbé Barthes...
d'évaluation de l'extrême-onction.
Voilà. Et on a un changement de signification. C'est-à-dire que, traditionnellement, l'extrême-onction avait pour objectif d'effacer les restes du péché. C'est pour ça qu'il était quand même bienvenu de se confesser avant de recevoir l'extrême-onction. Et c'est aujourd'hui devenu un sacrement qui est plutôt plus largement dispensé. Donc autrefois, les gens qui étaient en danger de mort, on faisait venir le prêtre. Alors ça aussi, c'était un sujet. Moi, je suis d'une famille catholique. Voilà, quand le prêtre arrivait, si le malade n'était pas tout à fait conscient de la gravité de sa situation, et il prenait conscience que les choses sérieuses allaient commencer. Voilà. Donc on faisait venir le prêtre quand on approchait du dénouement.
Le mot extrême onction veut dire l'onction qui a lieu à l'extrémité de la vie,
ou est-ce
que ça veut dire qu'on loint les extrémités du corps du malade?
Ben ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire que dans le rite traditionnel, cette extrême onction, il y avait plusieurs onctions sur ce par quoi, sur les cinq sens par lesquels la personne qui était extrémisée pouvait avoir
le mot extrême,
péché.
Ça veut dire autant extrémité que ultime moment de la vie.
Voilà, donc on est passé de cinq onctions à uniquement deux, où il n'y a plus que la tête et les mains.
Oui.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un sacrement. Alors, rendu à un certain...
Il parle de petits sacrements.
Voilà. Rendu à un certain âge, d'office, on considère que, vous avez plus de 80 ans, mon vieux, il reste moins à faire qu'il n'a été fait, donc craque d'office, on extrémise les gens. Il y a un petit peu un changement de situation, et puis il y a aussi toujours dans ce sacrement, comme ce que nous avons évoqué sur le baptême, une certaine forme d'escamotage du diable, de la présence du démon. Ça, c'est une grande caractéristique de la réforme liturgique. Je pense qu'il y a deux grands oubliés du concile, des textes du concile, et puis de la réforme liturgique. Les deux grands oubliés, me semble-t-il, c'est le péché originel et l'existence du démon. C'est-à-dire que non seulement ça a été escamoté dans l'enseignement, mais ça a été aussi pratiquement escamoté dans la mise en œuvre de la réforme des sacrements.
Mais quand vous dites escamoté, c'est presque une... c'est presque une négation, même, de véritablement.
Alors, c'est presque...
On parle plus du mal que de Satan lui-même.
Voilà, on n'en nie pas l'existence, mais effectivement, alors c'est pareil dans la nouvelle formule...
Il parle d'extrême discrétion sur le jugement particulier, le jugement général, l'enfer et le purgatoire.
Alors, un autre exemple, puisque c'est la même idée dans le nouveau rite, avant la messe, etc., on parle du péché du monde. Le péché du monde, c'est bien général. Les péchés du monde, il y a les miens dedans. C'est un peu plus concret.
Oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, mais comme quoi, la traduction est très importante.
Et, alors, c'est également évoqué par M. l'abbé Barthes. On dit lex orandi, lex credendi, la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Bon. Et que cet affaiblissement, cet estompement d'un certain nombre de réalités traditionnelles, de réalités sacramentelles, eh bien, font que les gens ont perdu le sens du péché. Alors, l'expression est employée dans cet ouvrage. Voilà. Aujourd'hui, à la messe, tout le monde communie, mais plus personne se confesse. Voilà. Ben ça, c'est pas tombé de la lune, quoi. C'est parce que ça correspond à une certaine forme de d'horizontalisation. Si la communion, c'est la manière que l'on a de manifester sa communion, sa solidarité avec la communauté qui est là, etc., ben effectivement, tout le monde peut y aller. Ben oui, ben oui. Et puis, si on fait pas de péché, ben y a plus besoin de se confesser. Tout ça est, au final, assez cohérent. Alors, une objection aussi qui a été faite par certains à ce travail, c'est de dire, mais on mélange tout, on mélange les considérations théologiques avec les considérations sociologiques. En particulier les considérations sociologiques sur le fait que effectivement, les gens se confessent moins alors que tout le monde communie. Moi, j'ai envie de dire que ces considérations sociologiques, elles sont aussi très évangéliques, c'est-à-dire que c'est le Christ qui nous dit de juger l'arbre à ses fruits. De juger l'arbre à ses fruits. Et M. l'abbé Barthes, dans ce travail, eh bien, ne manque pas de rappeler quelles ont été les conséquences pratiques, concrètes, dans la vie sacramentelle de ces réformes.
Oui. Et il cite d'ailleurs Yves Cuchet,
oui,
qui a de nombreuses reprises, mais il évoque le fait que cet amenuisement de l'évocation des fins dernières de l'homme a été d'autant plus désastreux pour la foi catholique qu'il participait d'un mouvement général de démythologisation dont le jugement, l'enfer, le péché mortel, Satan ont plus ou moins fait les frais, le clergé ayant cessé, écrit donc Yves Cuchet, le clergé ayant cessé assez brutalement de parler de tous ces sujets délicats comme s'il avait arrêté d'y croire lui-même, en même temps que triomphait dans le discours une nouvelle vision de Dieu de type plus ou moins rousseauiste, le dieu amour et non plus seulement d'amour, des années 60-70.
Voilà, donc l'ouvrage de Guillaume Cuchet, c'est « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », qui est vraiment un ouvrage de référence sur l'évolution, sur les changements du christianisme depuis les années 60 et la fin du concile en 1965.
Effectivement. Alors, on peut dire peut-être un mot du mariage.
Alors, ce...
Parce que là aussi, il y a multiplicité
alors
de formules.
Alors voilà, par rapport au sacrement du mariage, oui, la position de l'abbé Barthes est de dire, bon, au final, oui, c'est ce sacrement qui a subi le moins de, oui, de modifications. La seule remarque
qui... Il lui reproche simplement une prolixité.
Voilà, la seule remarque qui est faite, c'est de dire, ça rejoint un peu ce que l'on évoquait tout à l'heure sur l'aspect de la sacralité. C'est de dire, un, la multiplicité des formules qui sont possibles, des formules liturgiques, les formules d'accueil, etc. Et puis également la grande ouverture qui est faite sur la possibilité de lire des textes. Alors quelque chose que l'on retrouve aussi, il en faisait la remarque, sur le sacrement de confirmation.
Oui.
C'est-à-dire que le sacrement de confirmation, il y a plusieurs formules qui sont proposées, que l'évêque peut employer. Et puis après, on peut sensiblement varier le modus operandi en fonction de la personnalité de l'évêque, en fonction de la personnalité des personnes qui sont là. Alors tout cela procède, là aussi ça peut être une autre réflexion générale, le mot est dans l'air du temps, voilà, à une forme d'archipélisation de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, elle est une dans sa foi, elle est une dans son chef, son chef qui est le Christ, dans le pape et le vicaire, elle a une dans sa foi, elle a une dans son chef, elle est une aussi, nous enseigne le catéchisme, dans ses sacrements, les sept sacrements. Bon, ce que l'on est bien obligé de constater, c'est qu'elle est de moins en moins une, d'une part dans sa foi, voyons les récents événements, les confrontations de l'Église d'Allemagne avec le Saint-Siège, et puis elle est également de moins en moins une dans la formulation de sa foi qui passe dans les rites sacramentels. Voilà, il y a une très très grande variété de manières de donner les sacrements.
Alors avant qu'on cite Saint-Vincent de Lérins dans l'admirable
le Commonitorium de Lérins
qui se trouve dans la conclusion de ce livre, j'aimerais dire quand même un mot, puisque vous avez évoqué le sacrement de pénitence, qu'on appelait de pénitence maintenant, qu'on appelle de réconciliation. L'abbé Barthes écrit « Il y a plus gênant. La satisfaction est l'un des trois actes du pénitent, matière du sacrement nécessaire à sa validité. » Entre parenthèses, aveu des péchés, regret avec ferme propos, satisfaction. Or, cette satisfaction, ainsi déritualisée par les nouvelles normes, est seulement proposée, suggérée. Ces faiblesses n'existent d'ailleurs pas dans la version, n'existent d'ailleurs que dans la version en langue vernaculaire. Ça vous semble important que ce que soulève l'abbé Barthes à ce propos ?
Je crois effectivement qu'il y a un changement de perspective. Oui. Un exemple et puis un fait. Alors, le fait, voilà, traditionnellement, les gens se confessent dans un confessionnal, il y a une grille, donc le prêtre, t'es pas censé voir qui est la personne qui fait l'aveu de ses péchés. On est, et c'était l'expression traditionnelle, c'est le tribunal de la pénitence.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Et aujourd'hui, on a un changement de perspective, en ce sens que c'est plus le tribunal de la pénitence, puisqu'en fait, dans les églises, on a aménagé des bureaux, qui fait que l'on peut faire faire la conversation, et on est, il s'est expliqué, plus dans une question d'échange, et en particulier le sacrement, ça aussi c'est une remarque très intéressante, il dit, la formule traditionnelle était très cadrée, c'était un jugement, et puis aussi c'était adapté à des confessions qui, parce qu'elles étaient nombreuses, devaient être brèves.
Oui. Bien sûr.
Voilà, c'est quand vous regardez les communautés traditionnelles, oui. les confessions sont brèves parce que tout le monde se confesse.
Oui.
Et il observe, ça c'est très intéressant, aujourd'hui que les confessions sont devenues beaucoup moins nombreuses, en fait le rite incite à en faire un échange. Un exemple, une dame que je connais qui a ses enfants dans un lycée catholique sous contrat, donc son garçon va se confesser, puis après il raconte à sa maman, non pas ce qu'il a raconté, mais manière dont ça s'est passé.
Voilà
donc le garçon donne ses péchés, etc. Et là, le prêtre lui dit, bon, ben voilà, très bien. Enfin, je ne sais pas s'il lui dit très bien. Bon, mais alors maintenant, il faudrait que tu me dises ce que tu as fait de bien.
Voilà.
Bon. Je veux dire, quand vous êtes convoqué au tribunal...
Je l'ai déjà vécu.
Bon. On est dans une autre perspective.
Oui, oui. Effectivement. Alors... Il nous reste 3 minutes et j'aurais voulu qu'on conclue tout cela, toute cette discussion sur le fait que on peut nous accuser finalement d'être des fixistes, n'est-ce pas ? Alors que la doctrine chrétienne, évidemment, est susceptible de progrès dans l'Église du Christ. Et saint Vincent de Lérins répond donc à cette question. Certes, il faut qu'il y en ait un de progrès, et considérable, qui serait assez ennemi de l'humanité, assez hostile à Dieu pour essayer de s'y opposer. Mais sous cette réserve que ce progrès constitue vraiment pour la foi un progrès et non une altération. Le propre du progrès étant que chaque chose s'accroît en demeurant elle-même. Le propre de l'altération étant qu'une chose se transforme en une autre. Donc, que croisse et que progresse largement l'intelligence, la science, la sagesse, tant celle des individus que celle de la collectivité, tant celle d'un seul homme que celle de l'Église tout entière, selon les âges et selon les siècles, mais à condition que ce soit exactement selon leur nature particulière, c'est-à-dire dans le même dogme, dans le même sens, dans la même pensée.
Alors, je pense aussi, vous parlez de fixisme, me revient en mémoire, voilà, la phrase de Peggy. Voilà. Le Nord, c'est le Nord. Peggy se moque, il dit « on nous demande d'améliorer le Nord ». Non. Le Nord, c'est le Nord. Voilà. Et ça ne changera pas, et ça ne bougera pas. Et ben, le rôle de l'Église, c'est d'indiquer le Nord.
Voilà. Alors, précisons, cher Jean-Pierre Bergeon, que ce livre est paru il y a peu de temps, et qu'il est édité par les éditions Contretemps.
Voilà,
on peut se le procurer.
Voilà, donc les éditions Contretemps, oui. C'est un livre de 100 pages, à 10 euros. On peut se le procurer 10 euros plus 5 euros de frais de port en envoyant un chèque à l'ordre de Contretemps, donc à l'adresse de Contretemps, 25A rue Montebello, 78000 Versailles. Et puis, on peut également le commander sur Internet, bien sûr, sur le site de Renaissance catholique. Et il est dans les librairies. Voilà, nous avons eu une diffusion importante dans les librairies. N'hésitez pas à le demander à votre libraire.
Et on peut compléter sa lecture par quelques livres essentiels que vous avez contribué à publier, notamment sur le Concile Vatican II.
Voilà, donc ça procède d'un ensemble. Alors ça a été évoqué tout à l'heure, donc la préface a été écrite par Mgr Schneider, dont nous avons publié en particulier un ouvrage qui s'appelle Credo, qui est en fait un catéchisme un petit peu actualisé. Et puis dans l'ensemble, nous sommes également les éditeurs d'un livre du professeur de Mattei sur l'histoire du Concile Vatican II, pour comprendre comment on en est arrivé là.
C'est cela. Et j'ajoute que vous avez publié vous-même des petites brochures, l'une sur la lecture en question, et une autre sur l'obéissance.
Voilà, dont voilà. Je suis l'auteur et qui est édité chez Via Romana,
et que l'on
donc peut
trouver
commander chez
sur
Via
le
Romana.
Site de Renaissance catholique.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Merci, Jean. Benoît. Merci à tous.
Et je donne rendez-vous aux auditeurs et auditrices dans 15 jours.
Entendre au fil des pages de Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 29 avril 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.